Bonjour Bruno.
Bonjour Fabien. Aujourd'hui, il sera question des lanceurs d'alerte. Leur statut fait toujours l'actualité, leur protection reste fragile. La maison des lanceurs d'alerte poursuit sa mobilisation des décideurs et de l'opinion publique pour faire évoluer la législation en leur faveur. Ferrinck a écrit un diptyque sur deux lanceurs d'alerte emblématiques, Antoine Deltour qui a révélé le scandale des LuxLeaks et Céline Boussier qui a dénoncé la maltraitance à Mousseron, un établissement pour les polyhandicapés. Deux livres essentiels. Nous serons avec Ferrinck vers 14h15 pour qu'il nous guide dans cette lutte pour la dignité et l'écriture de ces deux biographies. À tout de suite. Écriture dessinée. Avant de démarrer, une brève. À la librairie La Bestiole, l'exposition de Julien Cordier va se dérouler jusqu'au 28 novembre et vous pourrez découvrir sur ses dessins d'un livre « Les inconfiants, bestiaires à l'hôpital psychiatrique ». Ces dessins sont extraits du livre éponyme écrit par Tatiana Arfel. C'est édité par le Bec en l'air et c'est l'hôpital psychiatrique comme on le voit rarement à travers le regard croisé d'une écrivaine et d'un illustrateur. Le dessin a eu beaucoup de liens avec l'hôpital psychiatrique et notamment, par exemple, avec la biographie dessinée de Nelly Bly, écrite par Virginie Aulagnier et qui a été mise en image par Carole Morel. Virgule. Il n'y a pas de virgule. Donc, on va faire 100. Alors, on enchaîne avec les livres qui vont encadrer cet entretien. Ce ne sont pas des livres sur les lanceurs d'alerte, mais il y a des liens, des ponts. Et je voudrais commencer par « La France de l'ombre », qui est un livre écrit par deux scénaristes de bande dessinée qui ont déjà une œuvre imposante. Il s'agit de Pierre Boisserie et de Didier Convard. La mise en image a été assurée par Stéphane Douet. Alors, cette France de l'ombre est une intégrale des quatre tomes qui s'intitulait « Les années rouges et noires » et qui était adapté du livre de Gérard Deltheil qui se nommait de la même façon. Librement adapté puisque il y a des points forts, des personnages qui reviennent, qui vont changer de nom, mais il y a aussi pour les besoins de cette transposition en bande dessinée, la volonté aussi d'en faire un récit avec d'autres partis pris. Trois personnages vont se retrouver au cœur de cette histoire. On pourrait même dire quatre, puisque dans le livre de détails, il y en a trois, mais dans cette France de l'ombre, il y en a quatre. Il y a Agnès Laborde, qui est une jeune résistance, avec un passé un peu plus contestable, qui a été aux côtés de Gaulle et puis qui poursuit une carrière politique. Il a Alain Véron, le frère de Jean, qui est un communiste qui a été assassiné. Et puis on a Aimé Bakeli, qui est un des personnages les plus importants de cette histoire, qui est un collabo, un homme de l'ombre, un anticommuniste forcené. Et puis on a Simone Barrou, qui a été la secrétaire de Bakeli et qui est devenue journaliste et qui a fait le début de sa carrière dans le journal Elle. Il y a dans La France de l'ombre une intrigue qui va se développer autour des fiches mécanographiques qui avaient été réalisées par les services de renseignement français et qui étaient l'ancêtre de tout ce que peut faire un service de renseignement avec les réseaux numériques. Et donc, on a cette point historique sur la façon dont étaient utilisées ces fiches mécanographiques qui seront vraiment l'objet convoité tout au long de cette histoire. C'est un récit d'espionnage où les fiches mécanographiques, par exemple, vont s'attacher à ficher chaque personne indésirable, chaque opposant, de pouvoir mettre des points sensibles qui seraient utilisables pour faire pression sur ces personnes, qui pourraient permettre de recouper un certain nombre d'informations. Il y a donc une densité du récit que développent très habilement Pierre Boisserie et Didier Convard. Il y a un autre point assez essentiel, c'est à travers le personnage d'Aimé Bakély, on découvre cette période de l'après-guerre où la France a, par le biais de certaines personnes, un anticommunisme forcené qui n'est pas sans rappeler celui qui sévissait aux États-Unis. Donc c'est un livre qui va couvrir toute l'après-guerre jusqu'aux années 70, 30 ans de l'histoire politique française, et c'est mis en image par donc Stéphane Douai. Alors, la mise en image, elle porte le récit, il n'y a pas de souci, parce que c'est un des points essentiels. Une mauvaise histoire qui est portée par un dessin magnifique, vous ne finissez pas le livre. Une histoire très bonne, portée par un dessin sur lequel on peut avoir quelques réserves, qui est encore en devenir, vous finissez l'histoire sans problème. Bien sûr, s'il y a que des maladresses, ça ne le fait pas. Ce n'est pas du tout le cas. Stéphane Douai a un dessin solide qui est encore un peu raide. On sent que la gestuelle des personnages va pouvoir prendre son ampleur. Mais en tout cas, ça porte déjà efficacement le récit que l'on suit tout au long de ces 256 pages avec beaucoup d'intérêt. Il y a vraiment un mouvement aussi bien humain que sur toute l'évolution politique de la France. Donc Stéphane Douai, avec ses 4 tomes, déjà acquiert encore plus de souplesse. Son trait va être encore plus près des personnages, mais on sent encore une très importante progression pour ce dessinateur. La France de l'ombre, amitié de guerre, collaboration, réseau d'influence et jeu de pouvoir, les dessous de la politique française de 1945 à 1980, est un récit de Pierre Boisserie et Didier Convard. C'est mis en image par Stéphane Douai. C'est publié par Les Arènes BD et les 256 pages de ce récit sont au prix de 27 euros. Ah, le retour de la virgule, c'est parfait. Et je voudrais continuer ces présentations avec un livre qui nous amène vers ces questions des lanceurs d'alerte avec Eddie et Noé, dont le tome 2, qui s'intitule « Les agitateurs », est un récit sur des ados et en opposition avec un certain nombre de décisions et en opposition à ce monde des adultes qu'ils laissent à leurs enfants et qui est plutôt catastrophique. Eddie et Noé sont pas seuls, il y a aussi Nassim et Sarah, et puis Nora qui sera une autre ado qui va débarquer dans ce tome 2. Alors, c'est un récit qui est écrit par Max de Radiguès, mis en image par Hugo Piette, et c'est une très intelligente et très pertinente série sur des ados. Donc on n'est pas du tout dans le récit de la franche rigolade, il y a vraiment des préoccupations qui sont essentielles, qui sont celles qui font l'actualité aujourd'hui, et de le faire passer à travers ces ados, qui ne sont pas n'importe quel ado. Ils ont déjà, dans le tome 1, été très actifs pour s'opposer à un directeur qui n'était pas à sa place et qui était même très nocif. Il y a donc dans ce tome 2 toujours cette lutte pour le climat qui est en toile de fond auquel Eddie, Noé, Nassim et Sarah participent, et il va y avoir une incidence avec l'école, et notamment la question du racisme va travailler et va traverser ce récit qui est fait de façon très, très intelligente. Et c'est important parce que il était essentiel de ne pas tomber dans une sorte de manichéisme, mais au contraire d'essayer de voir comment pour des ados va se structurer une pensée sur le racisme pour permettre à chaque ado de se positionner de façon assez saine. Alors, il y a donc un métissage qui est fait dans ce groupe d'ados. Bon, il y a des blancs, mais il y a aussi Sarah, qui est une jeune noire, et Nassim, qui est un jeune maghrébin. Et donc, ces questions raciales arrivent de façon automatique de par les réactions des gens autour d'eux. Et puis, il y a aussi cette question de l'activisme. Alors, ces ados, les 5 ados, parce qu'il faut rajouter Nora dans le groupe, vont montrer ce que permet cette conscience collective, cette façon dont on peut, avec un grand groupe, eh bien, animer une révolte, une contestation, et la faire aboutir. Il y a un problème dans leur collège et dans leur lycée qui vont prendre à bras le corps et ils vont mettre en œuvre tout un dispositif très inventif qui fait que cette opposition va grandir et va aboutir. C'est un autre récit essentiel parce que au-delà de ces deux grandes questions sociales, il y a les émois amoureux, il y a des questions beaucoup plus personnelles, et à chaque fois, la dimension de la personnalité de chacun est vraiment bien évoquée. Puis il y a la mise en image d'Hugo Piette, qui est lui aussi un dessinateur, qui a choisi une certaine sobriété dans sa mise en image, et il y a une efficacité parce qu'il porte pleinement le récit. On a un découpage en 4 bandes avec une grande régularité, un sens du cadrage. Et à chaque fois, eh bien, ça fait mouche. Donc il montre qu'avec un dessin simple, avec des personnages qui sont présents, qui sont campés, eh bien, le récit est porté et fonctionne à merveille. La mise en couleur apporte aussi sa touche de simplicité et de clarté, et l'ensemble fonctionne vraiment très bien. C'est une série qu'il faudra suivre parce que elle est assez étonnante, très d'actualité, et montre comment les ados peuvent être aussi porteurs de cet activisme, mais pour défendre leur lieu de vie et leur avenir. Eddie et Noé, le tome 2 de ce premier tome qui s'appelait « Plus chaud que le climat », il est intitulé « Les agitateurs ». signé Max de Radiguès et Hugo Piette pour le dessin et la mise en couleur. Les 80 pages de ce récit sont au prix de 14,90 €. Et le livre a été imprimé en France puisque les éditions Sarbacane qui publie ce livre est un éditeur militant et qui milite pour cette impression française. La protection des lanceurs d'alerte reste insuffisante. Les procès en diffamation qu'ils subissent les engagent dans un long parcours juridique pouvant empêcher leur action d'aboutir. La maison des lanceurs d'alerte apporte aide et accompagnement indispensables. Après le livre « Lanceurs d'alerte » de Lotte et Talamon, Ferrinck, ancien éditeur à la boîte à bulles, utilise la bande dessinée pour rendre concrète le parcours de deux lanceurs d'alerte. Deux livres pour nous accompagner dans l'intimité d'Antoine Deltour, qui a révélé le scandale des LuxLeaks, et de Céline Boussier, qui a dénoncé les actes de maltraitance de l'IME de Mousseron, un établissement pour les polyhandicapés. Ferrinck retrace le parcours d'Antoine et de Céline, chacun avec leurs spécificités. Le monde de la finance pour Deltour, les établissements privés de santé pour Céline Boussier. Abondamment documenté, chaque livre détaille le parcours du combattant de ces personnes qui font de leur combat une lutte pour la dignité. La bande dessinée apporte la force des dialogues, les mises en situation par l'image des lieux, des entreprises qu'ils dénoncent, les moments du procès. Ferrinck fait sien cet engagement des lanceurs d'alerte pour révéler les dysfonctionnements de notre société. En œuvrant pour leur reconnaissance, il participe à la mission de la maison des lanceurs d'alerte qui est de protéger ce qui nous protège. Nous sommes en direct avec Ferrinck. Bonjour, Ferenc. Alors,
Bonjour, Bruno.
est-ce qu'il faut dire Ferenc, Ferenc
Ah, c'est encore autre chose.
Éclairez-moi, s'il vous plaît.
C'est Ferenc, c'est tout simplement Francis en hongrois.
D'accord, ok. Alors, comment avez-vous choisi les deux lanceurs d'alerte dont vous voulez, sur lesquels vous avez écrit une histoire, une bio, parce qu'il y en a beaucoup.
Oui, il y en a beaucoup. Donc c'est une suggestion au départ de mon éditeur Vincent Henry de travailler sur les lanceurs d'alerte. Il m'a proposé ce sujet et pour beaucoup de raisons, ça faisait sens pour moi. J'ai été mis en relation avec, vous parliez de la maison des lanceurs d'alerte, dans un premier temps c'était avec Transparency International, qui est donc une ONG spécialisée dans l'accompagnement des lanceurs d'alerte et dans la lutte contre la corruption. Et ils m'ont proposé un certain nombre de profils qui n'avaient pas forcément dit oui pour une bande dessinée, mais en tout cas avec lesquels ils étaient en contact très serré. J'ai étudié les différents profils, je vais vous expliquer pourquoi je suis tombé sur Céline et Antoine. En tout cas, le hasard a bien fait les choses parce que les deux ont été tout de suite partants pour cette aventure. Céline et Antoine, ils sont à la fois uniques et très complémentaires à plusieurs titres. Céline, elle a dénoncé une situation de maltraitance institutionnelle d'enfants, de jeunes adultes, polyhandicapés, donc au sein de l'Institut de Moussaron, un IME. Et son cas est unique parce qu'au moment où elle se lance, elle le fait en sachant que trois lanceurs d'alerte précédents ont déjà été condamnés avant elle. Et elle le fait en plus sans avoir aucune marge de manœuvre financière, et d'ailleurs sa vie de famille va en payer des conséquences, mais elle se lance quand même avec beaucoup de courage de méthode. Elle n'a pas forcément fait des études qui lui permettent de décoder la vie politique, les logiques de fonctionnement des médias, mais en étant très opiniâtre, elle va réussir à soigner chaque dimension de son alerte politique, associative, médiatique. Et c'est ça qui va lui permettre de s'en sortir. Et Antoine, voilà, Antoine, ce qui est unique dans son cas, c'est que il dénonce donc les pratiques d'optimisation fiscale qui sont en vigueur au Luxembourg, avec la bénédiction du Luxembourg et avec tous les services possibles des cabinets d'audit qui jouent un peu les intermédiaires. Et Antoine dénonce lui un système qui est complètement légal. Donc il prend des risques, il part avec des informations, évidemment il est obligé de trahir le secret professionnel qui le lie à son employeur. Il le fait non pas pour dénoncer quelque chose qui est illégal, il le fait pour dénoncer quelque chose qui est amoral, mais qui est parfaitement légal. Et c'est ça qui rend derrière ces aventures judiciaires d'autant plus passionnantes et son rôle de lanceur d'alerte d'autant plus précieux.
Il y avait d'autres profils qui pouvaient faire aussi un livre ou qui pourra peut-être en faire un prochain?
Oui, alors c'est malheureusement, il y a un flux continu de situations difficilement acceptables et heureusement de personnes qui se mettent en travers et qui s'exposent. Donc les lanceurs d'alerte, ils sont très nombreux sur des sujets différents. C'est de là qui est aussi d'autant plus intéressant qu'il y a un garçon qui évolue dans un milieu assez aseptisé des grandes multinationales. On est dans un milieu financier au Luxembourg et de l'autre côté, on est dans une grande détresse sociale dans un coin de France où il y a relativement peu d'emplois, ce qui justifie d'ailleurs aussi les difficultés pour les éventuels salariés qui ne seraient pas d'accord avec les pratiques de leur établissement, parce qu'ils peuvent difficilement quitter cet établissement et retrouver du travail par ailleurs. Donc ça rend les choses également compliquées, mais oui, les profils ne manquent pas. Hein.
Alors, Ferenc, comment c'est visualiser les livres, aussi bien donc soit une maltraite et tais-toi pour Céline Boussier, et puis Fronde fiscale pour Antoine Deltour. Comment travaillez-vous, comment visualisez-vous ce que ça va devenir comme récit?
Alors, donc dans un premier temps, avant même d'être en échange avec le lanceur d'alerte, j'absorbe tout ce que je peux absorber. Céline avait déjà écrit un livre, elle, sur son histoire. les documentaires. Finalement, ces deux alertes ont été aussi rendues assez médiatiques parce que Cache Investigation d'un côté et puis Zone Interdite de l'autre étaient passés par là. Donc il y a une matière assez riche. Mais après, ce qui fait le sel de ces bandes dessinées et le travail que je peux vivre, c'est la rencontre avec les lanceurs d'alerte et de très nombreux échanges où finalement on prend le temps de creuser, parfois un peu au hasard, hein, autour d'une discussion, d'une phrase comme ça, certains aspects de leur aventure qu'ils ont presque oublié parce qu'ils sont très habitués à parler de leurs aventures de manière très résumée et schématisée. Mais lorsqu'il s'agit d'entrer dans le détail, il y a beaucoup de détails enfouis qui ressurgissent et qui peuvent avoir leur importance. Après, pour ce qui est de la visualisation, il y a aussi évidemment la dessinatrice, donc Léon Bakerman et François Sens, le dessinateur de Soin de Maître à Tépétois. Donc à Kaman, c'est pour fraude fiscale, qui rentre dans la boucle. Et si j'ai une vision, une prévision en quelque sorte des décors à faire vivre, ils sont aussi complètement indispensables à cette projection.
Ferrand, comment s'est passée la rencontre avec les deux lanceurs d'alerte? Qu'est-ce qu'apporte l'entretien, les informations? Ils ont été partants jusqu'au bout parce qu'ils ont quand même vécu un parcours juridique et très, très dur.
Oui. Alors, Antoine, dans une mesure moindre, parce que au moment où les choses se gâtent pour lui, il a déjà tourné la page, il n'est pas dépendant de son employeur, il a déjà retrouvé du travail par ailleurs, et puis il a une famille très structurée qui prend les choses en main, monte un comité de soutien. Financièrement, il arrive à trouver assez rapidement des solutions. Donc évidemment, la situation est très désagréable, mais il est très soutenu. Et au moment où on se rencontre, il vient d'en finir avec la dernière étape de son alerte, qui a priori n'était qu'une formalité, et ça l'a été heureusement. Céline, c'est plus compliqué parce que, comme je le disais préalablement, elle a tout pris de plein fouet. Elle n'avait pas de finances de côté pour s'en sortir. Donc son alerte, ça a complètement transformé sa vie, et on est sur un sujet de vie ou de mort d'enfant, de maltraitance, et donc c'est beaucoup plus viscéral. Donc dans les échanges qu'on pouvait avoir, d'un côté c'était assez apaisé, de l'autre côté c'était beaucoup plus à cœur ouvert, à vif. Après, donc, les échanges, c'est quelque chose d'assez informel, hein, c'est-à-dire que j'ai toujours en tête des sujets que je veux creuser, mais pour chaque rencontre, on se rythme des séances de travail, une heure par semaine, par exemple. Mais ce que je préfère, c'est encore une fois, le saisir dans une réponse une balle au bon et creuser pour retrouver des ingrédients de décor, des ingrédients des relations de cause à effet qui étaient peut-être un peu enfouis dans leur mémoire.
Comment s'écrivent les dialogues, donc? Parce qu'il y a aussi une très grande justesse, aussi bien dans Soit une maltraite était toi que dans Fraude fiscale. Comment avez-vous fonctionné?
Forcément, en écoutant Antoine, en écoutant Céline, je les entends, donc il y a des phrases, il y a un vocabulaire qui est le leur, sur lequel je vais m'appuyer. Je dirais que j'aurais du mal à faire complètement la part des choses entre ce qui vient de moi parce que je fais vivre leur personnage et d'autres personnages par la même occasion, et ce que j'ai repris scrupuleusement parce que finalement, lorsqu'ils me racontaient leur histoire, c'était suffisamment vivant et précis et exploitable en termes de dialogue pour que parfois je reprenne des morceaux de phrases ou des phrases en entier. Donc c'est un vrai mélange des deux. Mais en tout cas, j'essaie de respecter alors, la vérité sur le fond, évidemment, c'est leur vérité. Ils se sont livrés pleinement avec beaucoup de temps et ils ont relu aussi ce que je leur ai proposé bien consciencieusement. Voilà.
Est-ce que vous lisez vos dialogues à haute voix pour être sûr de la façon dont ils sonnent et bon, qu'ils respectent ce que vous avez...
Alors, je les lis à haute voix, mais je les lis surtout dans ma tête, parce qu'en général, les lecteurs les lisent dans la leur, et donc j'essaye de vivre ce que va vivre le lecteur dans l'enchaînement des mots, et m'assurer qu'il n'y a rien qui vient perturber la fluidité de la lecture. Et c'est plus une lecture intérieure qu'une lecture à haute voix.
Ferenc, je vous propose votre deuxième morceau, et on se retrouve donc juste après pour poursuivre cette découverte de vos deux livres sur les lanceurs d'alerte. À tout de suite.
T'es trop rapide, mon petit gars. T'es un bolide, mais je t'aime comme ça. T'es un peu speed, mon petit gars. Mais t'inquiète, moi ça me dérange pas. Tout ce qui peut se passer dans ta tête, tout ce qui fait que t'es différent, faut surtout pas que ça s'arrête. Ça fait que tu es si important. T'es trop rapide, mon petit gars. T'es un bolide, mais je t'aime comme ça. T'es un peu speed, mon petit gars. Mais t'inquiète, moi ça me dérange pas. Un jour le docteur nous a dit, c'est comme une étincelle que tu as de jour comme de nuit dans tous les coins de ta cervelle. T'es trop rapide, mon petit gars. T'es un bolide, mais je t'aime comme ça. T'es un peu speed, mon petit gars. Mais t'inquiète, moi ça me dérange pas. Si un jour une machine pouvait me faire revenir 9 mois avant toi, je dirais mais non, il est parfait. Surtout, surtout, ne le changez pas. T'es trop rapide, mon petit gars. T'es un bolide, mais je t'aime comme ça. T'es un peu speed, mon petit gars. Mais t'inquiète, moi ça me dérange pas. Et je leur dis merde à tous ces cons qui voudraient nous faire la leçon. Ne faites pas ci, ou bien faites ça, bref. Ta vie à toi, elle te suivra partout où tu la traîneras, de dos tourné, en regard baissé, quand tu t'approches pour les saluer. T'es trop rapide, mon petit gars. T'es un bolide, mais je t'aime comme ça. T'es un peu speed, mon petit gars. Mais t'inquiète, moi ça me dérange pas. T'es trop rapide, mon petit gars. C'est pour ça que les autres ils t'aiment pas. T'es un bolide, mon tout petit. Et les autres c'est des abrutis. Tu vas trop vite, mon petit gars. Tu vas trop vite, mais regarde-moi. Moi je te suis et moi je te crois. Et moi je cours aussi vite que toi. T'es trop rapide.
Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct avec Ferenc pour ses deux livres qu'il a scénarisés, Sois une maltraite et tais-toi, sur la lanceuse d'alerte Céline Boussier, et Fronde fiscale sur le lanceur d'alerte Antoine Deltour. Ferenc, comment... Alors, on a écouté le très beau titre « Mon petit gars » de Drôle de Dame. Comment s'est fait la discussion sur la mise en image de vos deux récits avec, donc, pour Céline Boussier, François Sens, et pour Antoine Deltour, eh bien, alors, Léandre Ackermann?
Je dirais que on était dans un cas comme dans l'autre, dans une recherche de dessinateurs, dessinatrices semi-réalistes, parce qu'on est quand même dans des récits qui sont très ancrés dans le réel, mais je pense que c'est indispensable sur ce genre de sujet qui peut être aussi très lourd de permettre au lecteur de rentrer dans le propos quand même avec une certaine légèreté. Donc ils ont en commun un registre graphique qui est assez proche. Et bon, après, c'est plus des hasards de rencontres de personnes. C'était deux dessinateurs qui avaient été identifiés par l'éditeur. Je connaissais déjà Léandre Ackermann pour l'avoir croisé. Et les deux ont adhéré, leur fibre militante a adhéré au projet. Et je pense que pour les lanceurs d'alerte, ça a très vite fonctionné. Il n'y a pas eu beaucoup d'hésitation.
Quels documents fournissez-vous à chacun des deux dessinateurs, Ferenc?
Alors, au fur et à mesure que je travaille sur des scènes dans le scénario, forcément, je fais le lien avec de la documentation dont je peux disposer. Je prépare une sorte de répertoire classé avec des numéros, hein, dans mon scénario. On voit que tel dessin, telle vignette renvoie à telle image. Après, heureusement aussi, on a pu s'appuyer sur les deux lanceurs d'alerte qui nous ont transmis de la matière graphique, parce que eux ont vécu ces aventures au premier plan. Ils ont des proches qui ont pris des photos, ils ont des souvenirs qu'ils ont conservés dans le disque dur de leur ordinateur. Donc on a une matière assez vivante, et je pense aussi pour Céline Boussier à l'émission Zone Interdite, qui était le meilleur témoignage de ce que vivaient les enfants au sein du château. Donc c'était aussi des repères essentiel pour François Sens. Pour Antoine, c'est peut-être un tout petit peu moins vital, dans le sens où un bureau, c'est un bureau, un open space, c'est un open space. On n'est pas forcément dans ce souci de reconstitution. Pour Mousseron, c'était un enjeu plus fort.
Alors, il y a un point qui fonctionne aussi très bien, c'est le découpage. On a un 3-bandes qui est tenu avec quelques variations, mais on est toujours sur cette base de 3 bandes d'images égales. Et est-ce que c'est vous qui avez choisi cette régularité des hauteurs de bandes d'images pour garder un point de vue unique, finalement, sur tout le récit?
Alors l'éditeur, pour tout ce qui est des livres engagés, s'est beaucoup appuyé sur ce format, qu'on appelle un format 16,5 par 24, pour évoquer les centimètres de largeur et de hauteur. Et donc, on peut difficilement vivre à 4 bandes là-dessus. Lorsque je construis mes scénarios, j'essaye de raisonner à chaque fois par double page et par page pour rythmer le sujet et puis l'enchaînement de scènes, de dialogues, en sorte que quand on arrive à la bas d'une page, on est finalement traité à un moment, en quelque sorte, et lorsqu'on arrive à la fin de la double page, on a envie de tourner pour découvrir la suite. J'avoue que je ne sais plus à quel point j'ai scrupuleusement respecté les 3 bandes, mais parfois je pense que je fais moins. Il doit y avoir quelques pages pleine page d'ailleurs, quelques situations avec seulement 2 bandes, mais il y a une grande majorité de 3 bandes, parce que c'est comme ce qui permet de porter un propos qui n'est pas forcément dense. On essaye de le répartir sur une pagination qui est importante, mais clairement il y a quand même un propos à partager, et ça suppose des voix off et des dialogues en assez grande quantité. Hein.
Ferenc, la position et la situation des lanceurs d'alerte fait toujours débat. Ils n'ont que peu de garanties. Il faut qu'ils soient très prudents dans la façon dont ils vont procéder. Comment vous positionnez-vous, vous, par rapport à ce qui manque, à ce qui est nécessaire encore pour eux, quoi. Il y a quelques, à la fin de chaque livre, il y a un petit rappel historique sur différents points, justement, sur cette histoire des lanceurs d'alerte.
Antoine, aujourd'hui, avec le recul, il considère que ce qu'il a vécu est en quelque sorte un précédent qui montre qu'on peut lancer une alerte et s'en sortir pas si mal que ça. Parce que effectivement, si dans un premier temps la justice luxembourgeoise ne se concentrait que sur la problématique de secret professionnel, et donc raison pour laquelle à l'issue donc de la première instance, il a été condamné de la prison avec sursis et une amende. Au fur et à mesure, les instances se sont intéressées à la jurisprudence européenne, aux lanceurs d'alerte, et assez rapidement, il a été reconnu, enfin le vent a changé de sens, et il a été reconnu dans ses droits. La jurisprudence, elle progresse en permanence. Il y a une loi qui s'appelle la loi Sapin, soit Sapin 2, qui date de 2016, qui a pour ambition de porter la législation française aux meilleurs standards européens et de contribuer en matière de lutte contre la fraude. Il y a aussi une loi qui s'appelle la loi Wasserman, qui date de 2022, qui elle vise à améliorer la protection des lanceurs d'alerte. Elle comble un certain nombre de lacunes de la loi Sapin 2 2016, dans le sens où il y a un soutien qui est également étendu à ceux qui aident les lanceurs d'alerte. Donc les lanceurs d'alerte ne sont plus seuls à être éventuellement protégés à partir du moment où on les reconnaît pleinement dans leur droit de lanceur d'alerte, mais ceux qui ont aidé, et ça peut faciliter quand même les vocations, sont également reconnus dans les mêmes droits. Enfin, je suis pas juriste, évidemment, donc j'ai pas une grande compétence sur ce terrain-là. C'est sûr que si on prend le cas de Céline Boussier, ce qui est très particulier, c'est qu'au moment où elle s'est lancée, elle savait que 3 salariés du même institut avaient précédemment lancé l'alerte, et les 3 avaient été condamnés. Donc elle a d'autant plus de mérite qu'elle est partie au combat avec cet historique.
Ça a été un parcours pour elle très difficile parce que bon, il y a eu effectivement les accusations, la diffamation, les pressions. Elle a été reconnue. Sa plainte a été reconnue.
Oui, sa plainte a été reconnue et dès la première instance, donc Yamène Moussaron n'a pas fait appel. Mais encore une fois, c'est comme des rouages, hein, elle a su faire en sorte que la dimension, enfin que le politique mette le nez suffisamment fort dans l'affaire pour que il y ait pas une pression, mais je dirais un intérêt. Du public sur la maltraitance d'enfants pour les handicapés qui monte d'un cran. Il y a les médias, évidemment, zone interdite en premier chef, mais pas que. Il y a de nombreux médias qui ont relayé la situation. Et il y a eu toute une série d'associations françaises, mais aussi internationales, qui se sont appropriées la problématique. Donc, je dirais que tout ça a constitué quand même une musique qui est sans doute venue s'imposer aux oreilles des juges au moment où, par ailleurs, la loi Sapin aidant, il devait statuer sur son cas. Donc là où Antoine a dû aller jusqu'en cassation pour obtenir gain de cause, Céline, elle, c'était dès le premier passage au tribunal. Après, il y a d'autres problématiques juridiques parce que à son tour, elle a basculé en tant que témoin, notamment pour des problématiques de harcèlement au travail. Et là, ça se termine moins bien, dans le sens où si la justice a reconnu, d'une part, une logique de harcèlement et des, des logiques de maltraitance lorsque elle était accusée. Derrière, il n'y a pas de suite, il n'y a aucune condamnation sur ces faits lorsque l'on s'intéresse au personnel et aux dirigeants de Moussaron dans un deuxième temps.
Que peuvent ces deux livres pour aider les lanceurs d'alerte? Est-ce que vous pensez que ça va participer à leur meilleure reconnaissance?
J'espère que c'est des livres qui font une sorte de grand écart, c'est-à-dire qui sont à la fois dignes d'intérêt pour ceux qui connaissent les lanceurs d'alerte et qui ont envie d'en savoir plus par rapport à deux lanceurs d'alerte bien particuliers, que ceux qui ne connaissent rien aux lanceurs d'alerte et qui vont y découvrir finalement les grandes lignes d'un parcours. Parce que ils sont très différents, Céline et Antoine, mais finalement, schématiquement, ils vivent un peu la même chose. Et peut-être que c'est... Je vois pas du tout ça comme un mode d'emploi. Si demain vous voulez lancer l'alerte, parce que chaque situation est très particulière et les lois sont encore un peu fragiles et il faut faire attention à chaque dimension de sa position et de sa situation par rapport à ce qu'on veut dénoncer pour être reconnu dans ses droits. Mais je pense que on sort de la bouillie d'informations trop condensées qu'on peut retrouver dans les articles. Je ne dis pas que les articles sont pas utiles, je dis juste qu'on regarde parfois la situation des lanceurs d'alerte juste au moment où il y a un pic judiciaire, un pic juridique, parce que c'est le procès, et on perd de vue tous ces moments qui ont été intensément vécus par les lanceurs d'alerte, mais qui sont peut-être moins dignes d'intérêt, vus par les journalistes au moment de résumer et de devoir rentrer dans un petit cadre. Donc on dirait qu'on a enfin fait un mot d'histoire sur pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette alerte et comment ils l'ont vécu et qu'est-ce qui en ressort.
Merci beaucoup, Ferenc. Je rappelais les caractéristiques de vos deux livres. Alors il y a Fronde fiscale, mis en image par Léandre Ackermann, et Soigne, maltraite et tais-toi, mis en image par François Sens. C'est la boîte à bulles qui est l'éditeur de ces deux livres. 128 pages pour Soigne, maltraite et tais-toi, 120 pages pour Fronde fiscale. Et les deux livres sont au prix chacun de 20 €. Merci beaucoup et très bonne continuation. Merci. Au revoir, Ferenc.
J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'en va en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. J'troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines. Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Grosse boîte que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sous ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Dans les grandes villes, j'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. Je boirais l'eau saine de mon ruisseau plutôt que l'eau sale du fond de la Seine. Chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. J'aurais des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir. Juste une seconde de vérité pour que mon passé coule sous les ponts. J'aurais des bandes pour m'éclipser, pour me retrouver face à que dalle. Juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin. sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur.
Je voudrais terminer cette émission avec Slava. Le deuxième tome de ce triptyque est sorti à la rentrée. Il s'intitule « Les nouveaux Russes ». Alors Slava, c'est un récit qui se passe dans la Russie de la fin des années 90. Il y a Dimitri Lavrine qui est un escroc convaincu. Et puis Slava Segalov qui donne son prénom à la série, qui est un ancien étudiant en art, qui a une éthique un peu chancelante, mais ça ne va pas. Et bien, Lavrine va nous emmener dans cette Russie où on démantèle les grands palaces laissés à l'abandon et on va plutôt chercher aussi à récupérer les outils de production pour vendre les machines aux oligarques, comme un des personnages très importants de cette histoire, Troubetskoy, qui est tout à fait peu recommandable et qui achète à vil prix des usines de l'ancienne URSS et pour vendre les outils de production. Le deuxième volet de cette trilogie nous livre vraiment aux joies de cette désindustrialisation. Et Pierre-Henri Goumont, qui est l'auteur de cette grande saga, ça fera un roman graphique d'ampleur, va mettre en scène le côté implacable et terrifiant de ce capitalisme sauvage qui va laisser sur le carreau une bonne partie de la population. Donc on a une galerie de personnages, donc j'ai cité Lavrine et Segalov, mais il faut rajouter Nina, dont Slava va tomber amoureux, et puis ils vont avoir donc une histoire d'amour, et puis il y a son père Volodia, un russe haut en couleur, et qui a le verbe haut et la poigne puissante. Dans ce tome 2, Lavrine va découvrir les voûtières. Et c'est des morceaux de papier qui permettent d'acheter une partie des outils de production. Ce sont des bons de privatisation. Ils se multiplient dans l'ex-URSS et permet donc à un ouvrier à qui on les distribue de pouvoir s'acheter une partie de leur usine. Et donc, ça va devenir la course aux voûtières et une façon pour Lavrine de se refaire. Pierre-Henri de Gaumont est un adepte des romans graphiques. C'est son écriture principale, essentielle. Il a un sens du récit qui fait que, à chaque fois, ses livres marquent par l'intensité de leur histoire. Il a une connaissance des pays de l'ancien bloc de l'Est. Il y a rencontré des habitants. Il a une lecture des auteurs russes contemporains qui permet aussi de nourrir ce récit slava. Pierre-Henri de Gaumont va tirer de toutes ses connaissances des dialogues savoureux, un récit intense, percutant, qui va nous immerger dans la société russe contemporaine. Et puis, il y a le dessin de Pierre-Henri Gaumont. C'est un dessinateur qui a une empathie pour ses personnages et qui a une façon de les dessiner qui donne tout de suite une ampleur à cette histoire. Les deux couvertures, déjà, apporte par la composition les personnages plutôt en plan lointain, une grande place pour les décors. On, on rentre immédiatement dans cette ambiance de la Russie contemporaine. Pierre-Henri Gaumont dessine avec une plume qui lui permet de faire aussi des délits, mais qui garde cette tension et qui va donner un côté très énergique à son dessin. Il y a une façon d'avoir cette dynamique que l'on peut souvent rencontrer sur des dessins au crayon, mais là, il arrive à garder cette dynamique à l'ancrage. Et très vite, on est séduit, on est vraiment emballé même par cette mise en image très dynamique où on a une gestuelle, on a des personnages qui sont vraiment présents dans la case, un sens du cadrage qui donne là aussi une grande efficacité à l'histoire. Et puis il y a aussi cette façon de dessiner les grands palaces vides qui sont en train de se faire démanteler, les usines qui tournent au ralenti, que les ouvriers ne veulent pas lâcher avec de très grosses machines. Et on va aussi aller dans des bars de plus grandes villes, dans des boîtes de nuit. Et à chaque fois, les ambiances sont là. À chaque fois, le lecteur suit Slava et Nina va accompagner Lavrine dans ses difficultés à pouvoir être encore présent dans les petites arnaques qu'il fait et ça compose très rapidement un récit d'une très grande intensité. Pierre-Henri de Gaumont choisit le 4 bandes, on est quand même sur un grand format, ça permet vraiment d'avoir une histoire d'ampleur, mais ça donne aussi un grand nombre de cases par page, et il y a un récit qui peut vraiment s'étaler. Il y a donc une intensité dans cette histoire qui est très atypique. Les récits sur la Russie contemporaine, ben, il n'y en a pas légion. Et ça, c'est vraiment un très grand moment. C'est un des très grands livres de Pierre-Henri de Gaumont qui avait notamment écrit Pereira prétend, adapté du roman de Tabouki, et puis on a eu aussi La fuite du cerveau ou Mal à terre, et Pierre-Henri de Gaumont est une des grandes signatures du roman graphique d'aujourd'hui. Slava, les deux tomes sont publiés par les éditions d'Argo, le deuxième Les Nouveaux Russes. C'est un récit de 112 pages, donc d'ampleur, qui fait 21,50 €, et le livre a été imprimé en France. Et merci Fabien pour cette technique, et on se retrouve bien la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.
Écriture dessinée.